c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soi-même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs
de 6 ans à 166 ans.
Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour chers auditeurs, c'est la Garantie Jeune qui vous parle. Alors c'est quoi la Garantie Jeune? C'est un accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans dans l'insertion sociale et professionnelle. Pour faire court, on galère un peu à trouver du travail et ce projet de radio rentre dans le cadre de cette Garantie Jeune pour nous faire découvrir différents boulots. L'émission d'aujourd'hui se déroulera en deux parties. La première concernera le rapport au travail entre les différentes générations et classes sociales. La deuxième partie concerne la découverte de métiers. On est donc parti interviewer différents secteurs de métiers, de l'usine à la mairie. Et on va commencer par l'interview de Madame Séverine Misset, sociologue. Bonne écoute.
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur JetFM et nous recevons Séverine Misset, sociologue à l'Université de Nantes, pour lui poser quelques questions par rapport au travail et aux classes sociales.
Bonjour.
Quelle est votre spécialité ?
Alors, je suis maîtresse de conférence donc à l'Université de Nantes, au Centre Nantais de Sociologie. Ma spécialité, c'est la sociologie du travail au sens très large, et puis la sociologie des groupes populaires et du militantisme.
Et dans quel cadre exercez-vous aujourd'hui ?
Donc, pour toute la partie recherche et réflexion, je suis au Centre Nantais de Sociologie, donc qui est un laboratoire qui fait partie de l'Université de Nantes. Et puis, pour la partie enseignement, j'enseigne à l'IUT de Nantes, au département gestion des entreprises et des administrations.
D'accord. Et de quelle manière le travail influence la manière dont une personne se perçoit et comment les autres la perçoivent aussi ?
Alors ça, la sociologie... est très clair sur le fait que le travail, ça reste un élément absolument central de l'identité. C'est un élément qui est essentiel. Il suffit de penser tout simplement, les très jeunes enfants, quand on leur demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ils comprennent tout de suite que la question qu'on leur pose, c'est « quel métier tu veux faire ?». Alors que ce n'est pas dans la question, hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ça pourrait être « qu'est-ce que tu veux faire comme loisir ? Qu'est-ce que tu veux faire comme... » Non, les enfants comprennent tout de suite qu'on leur parle de travail. Et de la même façon que quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», il comprend aussi implicitement qu'il s'agit de travail. Donc c'est vraiment un élément fondateur de l'identité sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a éprouvé le besoin de construire ces catégories socio-professionnelles, parce que dès qu'on fait une enquête statistique, on en a besoin pour analyser les réponses des gens. Parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui organise la vie des gens. On sait qu'on n'a pas la même façon de fonctionner selon sa catégorie socio-professionnelle.
Très bien. Et du coup, est-ce que l'ascenseur social fonctionne mieux ou moins bien qu'avant ?
Alors, on a plutôt tendance à considérer que l'ascenseur social fonctionne moins bien aujourd'hui qu'avant. Mais en même temps, il ne faudrait pas tomber dans une vision un peu idéalisée en se disant « avant, ça fonctionnait bien, l'ascenseur social, il n'a jamais bien fonctionné. Il y a toujours eu de la reproduction sociale, il y a toujours eu des catégories qui fonctionnent vraiment de façon très fermée. » C'est le cas des petits artisans, des petits commerçants, c'est le cas aussi des agriculteurs.
Très bien, d'accord. Et du coup, les rapports au travail sont-ils différents en fonction des générations ?
Alors, les rapports au travail sont différents en fonction des générations ? Un petit peu, mais beaucoup moins qu'on a tendance à le dire, en fait. C'est vrai qu'on pose souvent cette question-là. Et on voit beaucoup, alors il y a même des termes qui sont employés, la génération X, la génération Y, les millennials, etc. C'est un peu des créations marketing quand même, il faut bien le dire. Et en fait, c'est compliqué de répondre à cette question. Est-ce que les jeunes ont un rapport au travail différent des autres ? Parce que Pierre Bourdieu, un sociologue très connu, disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». C'était une façon de souligner qu'il n'y a pas une jeunesse En fait, il y a justement des tas de jeunesses différentes qui ont des caractéristiques différentes et donc qui ne vivent pas les mêmes situations et donc qui ne peuvent pas avoir le même rapport au travail. Et en fait, les catégories socioprofessionnelles sont un outil nettement plus intéressant pour justement différencier ces rapports au travail que le critère de l'âge, finalement. Ça donne des distinctions qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus significatives que celui de l'âge.
Alors, Séverine Missa, toujours parlant du travail, pour vous, quelle importance ont pris les diplômes aujourd'hui dans le domaine du travail ?
Alors, on est dans une société qui fonctionne beaucoup sur les diplômes. La société française est très structurée par les diplômes et les diplômes ont pris de l'importance dans toutes les catégories sociales, y compris, par exemple, chez les ouvriers. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dans les milieux ouvriers, on a conscience de l'importance du diplôme. On n'est pas toujours armé pour aider les enfants à aller loin, justement, dans leur trajectoire scolaire, mais tous les milieux sociaux ont pris conscience de cette importance du diplôme. Et ça, c'est quand même... Alors, ce n'est pas complètement nouveau. Hein, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que c'est le cas. Mais c'est quelque chose qui marque nettement la différence avec les plus anciennes générations qui peuvent encore être sur le marché du travail et qui sont nées dans les années 60 ou 50, par exemple.
Merci. Où en est-on aujourd'hui par rapport à la discrimination au travail ? Sur le plan physique, origine et sexe.
Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent justement ces phénomènes de discrimination, même s'ils ne sont pas forcément faciles à montrer. On a des études qui sont faites par ce qu'on appelle des testings. Donc, on envoie des CV qui sont réalistes, mais qui sont quand même des CV expérimentaux sur lesquels on a modifié seulement une caractéristique. Donc ça peut être on a juste modifié la photo ou alors on a juste modifié l'adresse, on a juste modifié le prénom, le nom. Et donc on les envoie aux entreprises et puis on observe les taux de retour, les taux de convocation aux entretiens, etc. Et donc ces testings très très régulièrement mettent en lumière des phénomènes de discrimination qui peuvent porter sur l'origine, qui peuvent porter sur les caractéristiques physiques et puis qui peuvent porter aussi beaucoup sur le genre. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait, qui sont relativement bien documentées. Et puis, on a aussi d'autres études qui interrogent en fait les gens sur les discriminations qu'ils ressentent. Donc là, c'est une discrimination qui est plus subjective. Et on a aussi quand même des données qui montrent l'ampleur du problème. Donc c'est intéressant de confronter un petit peu ces deux mesures de formes de discrimination. Oh. Va se retrouver sur le marché du travail et qui va expérimenter un taux de chômage colossal, c'est souvent pas les mêmes jeunes.
D'accord. Et quels stéréotypes les jeunes ont sur les seniors, vice-versa en fait, par rapport au travail ?
Alors, il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent entre les générations. Souvent, les jeunes disent des seniors qu'ils sont un petit peu trop rétrogrades, un petit peu trop conservateurs, tournés vers le passé, pas assez au fait des technologies, qui défendent un petit peu leurs acquis, leurs précarés. Et puis j'ai envie de dire, il y a les stéréotypes qui vont dans l'autre sens, hein, c'est que souvent les personnes plus âgées vont regarder les jeunes en disant ils sont trop individualistes, ils pensent qu'à eux, ils sont trop tournés vers ce qui leur apporte des choses, mais pas assez à ce qu'ils peuvent apporter à la collectivité, par exemple. Ils sont trop matérialistes, ils pensent qu'à l'argent, etc. Alors, pour prendre un exemple qui a fait l'actualité il y a quelques mois, quand on a parlé de la réforme de la SNCF, on a parlé de la remise en cause du statut de cheminot. Et puis, ils ont essayé de vendre, entre guillemets, leur réforme en disant « Ah, mais le statut de cheminot, on ne va pas l'enlever aux anciens qui l'ont. Par contre, les jeunes qui vont arriver, on va leur donner un autre statut. Et eux n'auront pas un certain nombre de caractéristiques qu'ont les cheminots actuels. » Bon, ben, quand on fait ça, on alimente un petit peu des tensions entre générations, puisque ben, les anciens cheminots qui sont en emploi et qui vont voir arriver les petits jeunes qui remettent en cause leur statut, eh bien, ils ne vont pas forcément les accueillir de façon toujours, toujours positive. Donc voilà, ces stéréotypes entre générations, ils sont aussi quand même parfois alimentés hein, par les politiques de gestion des entreprises.
Bonjour, ici Cédric, vous êtes toujours sur JetFM 91.2.
dans l'émission Génération face au travail. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Séverine Misser, qui est évidemment maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes, dont vous venez d'écouter, nous avons réalisé deux interviews sur deux générations différentes, qui est sur l'ancienne génération et sur la nouvelle génération. Et sur ce fait, nous avons interviewé Romial, jeune travailleur qui représente la nouvelle génération, dont vous allez écouter tout de suite. Interview réalisée par Marie, Léonie, Aurélie, bien évidemment, moi, Cédric. Je vous invite donc à écouter attentivement. Bonne écoute à vous et à tout de suite.
Bonjour, je vous présente Léonie. Donc, je fais partie de la Garantie Jeune. Et aujourd'hui, nous allons poser des questions à la question de la génération de face au travail. Donc, nous allons interroger Romuald qui va nous expliquer un peu ça. Donc, la génération Y. Donc, qu'est-ce que la génération Y pour vous, Romuald ?
Bonjour, tout d'abord. La génération Y, ce sont les personnes qui sont nées entre les années 80 et 97 et qui ont, à mon avis, une vision qui a bien évolué du travail au vu de la nouvelle conjoncture économique.
D'accord. Donc, pour vous, quelle est la vision du travail aujourd'hui?
Alors, moi, ça va être ma vision du travail par rapport à ma pratique et ce que je fais, où je suis dans l'accompagnement social. Donc, ma vision, c'est aussi de pouvoir travailler tout d'abord dans des conditions de travail saines. Je pense qu'on travaille pour aussi des raisons alimentaires, mais aussi pour pouvoir s'épanouir. Je pense que c'est aussi un des facteurs importants dans la génération Y qui... pour les jeunes, en tout cas, qui a une grande importance et qui peut permettre aux jeunes de travailler sur une carrière, sur du plus ou moins du long terme, sans subir.
D'accord. Donc, le marché du travail a-t-il évolué pour vous ? Si oui, comment il a évolué ?
Alors, je pense que oui, le marché du travail, il a évolué, face aussi à l'évolution de la société, de la conjoncture économique, comme je le disais. Aujourd'hui, à mon humble avis, nous ne souhaitons plus avoir de communication descendante, c'est-à-dire qui descend du patron vers les salariés et qui est imposée. Les jeunes, aujourd'hui, ne souhaitent plus subir. On est plus dans une communication ascendante, c'est-à-dire que l'équipe de salariés puisse avoir la parole, puisse être acteur et au cœur des évolutions professionnelles. Si cette nouvelle génération ne se sent pas impliquée, je pense qu'elle ne trouvera pas de sens. Et sans sens, cette génération se retrouve face à un travail qui est plus subi et non pratiqué avec plaisir et qui a pour but un épanouissement personnel. Donc cela démontre une motivation et une réelle envie d'implication des jeunes sur le marché du travail. Avec le sens qu'ils y mettent.
Ok, donc les jeunes ont-ils besoin d'adopter une attitude différente pour se positionner sur le marché du travail actuel ?
Alors oui, auparavant, certains, on va dire les anciennes générations, au moment de leur jeunesse, avaient beaucoup plus de facilité à trouver un emploi. C'est-à-dire que, comme on a pu entendre récemment, ils pouvaient traverser la rue très facilement et trouver un emploi. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On nous demande de l'expérience, des diplômes. Aujourd'hui, on peut être diplômé et malgré tout se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, comme je disais précédemment, les jeunes ont besoin de mettre du sens. S'il n'y a pas de sens, les jeunes ne pourront pas se positionner sur le marché du travail, surtout au vu de l'expérience qui leur est demandée. Cette expérience, elle ne peut pas s'acquérir si on ne leur donne pas une chance. Donc ils sont obligés d'avoir une motivation et surtout s'acharner de manière beaucoup plus importante dans le sens où il va falloir accepter de faire face à très souvent de nombreux échecs pour pouvoir avoir une situation positive au niveau de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment la difficulté des jeunes de pouvoir garder leur motivation face à un marché de l'emploi qui est vraiment fermé.
Ok, donc est-ce que pour vous, les jeunes et les plus âgés ont-ils les mêmes attentes face au travail ?
Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les jeunes ont une vision différente par rapport aux générations telles que leurs parents, dans le sens où ils n'ont pas forcément les mêmes responsabilités. Certains vont avoir besoin de nourrir leur famille, ont besoin d'un travail pour pouvoir se maintenir en tout cas en place dans cette société. Les jeunes, eux, essayent de faire leur place. Donc ils ne sont pas du tout dans les mêmes attentes et les mêmes recherches. En tout cas, je pense que l'on soit jeune, âgé, très âgé ou très jeune, on recherche tous la même chose, c'est-à-dire de pouvoir s'épanouir au travail. Et je pense que dans chaque catégorie de génération, chaque personne a des points de vue différents, car l'individu reste unique.
Les jeunes ont-ils pour vous, sont-ils moins motivés aujourd'hui à travailler ? Et les plus anciens auraient-ils plus de facilité à s'intégrer sur le marché du travail ?
Alors, oui, il y a vraiment du vrai dans cette question, dans le sens où les personnes les plus âgées, comme je disais tout à l'heure, avaient juste à traverser la rue et c'était réellement beaucoup plus simple pour eux de trouver un emploi où il y avait beaucoup moins d'expérience, en tout cas, qui était demandée. Ça marchait vraiment beaucoup plus à la motivation. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils sont pas moins motivés, ils sont surtout plus en difficulté, dans le sens où, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a de nombreux jeunes qui vont faire face à de nombreux refus avant de pouvoir avoir la chance qu'on leur donne une expérience qui puisse vraiment travailler et se confronter au marché du travail. Je pense qu'au contraire, ces jeunes aujourd'hui, ils sont peut-être plus motivés parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas d'études de bagage de cursus scolaire, déjà ça va être encore plus difficile et donc ils vont devoir faire preuve d'une motivation beaucoup plus grande pour décrocher des contrats parfois qui sont beaucoup plus précaires qu'ils étaient auparavant. Et donc déjà devoir s'accrocher dans des travails que je pourrais considérer plus difficiles. Mais au vu du marché et de la conjoncture actuelle, pour moi, les jeunes ne sont pas moins motivés. Ils font simplement face à plus de difficultés et il y a de moins en moins, en tout cas, d'offres pour ces jeunes.
D'accord. Et on pourrait se poser la question, en général, que recherche-t-on aujourd'hui dans le travail en tant qu'individu ?
En tant qu'individu, je pense qu'on recherche avant tout de la reconnaissance sur son travail. C'est-à-dire que son travail, on ne travaille pas dans le vent. Il faut que son travail puisse être reconnu et voir le sens qu'on peut y mettre. Je pense que tout individu aussi souhaite avoir un salaire minimum pour pouvoir vivre et faire face aux aléas de la vie et aux charges quotidiennes. Je pense aussi qu'il faut pouvoir, dans son travail, pour toute personne, pouvoir s'épanouir et prendre plaisir. Avec du plaisir, les journées seront beaucoup plus courtes et donc beaucoup plus agréables.
Moi, je suis Aurélie de la Garantie Jeune. Du coup, j'ai une dernière question. À votre avis, existe-t-il un réel clivage entre les nouvelles générations et les plus anciennes ? Ou à contrario, existe-t-il différentes jeunesses dans chaque génération ?
Alors, je vais répondre à cette question qui me semble un peu difficile, même si une bonne partie de la réponse est dedans. C'est oui et non. Oui, il existe un clivage parce que le marché du travail a évolué. Les générations précédentes ont fait face à un marché du travail qui était plus libéré. Aujourd'hui, malgré tout, les personnes âgées, de nombreuses personnes se retrouvent elles aussi en difficulté dans leur fin de carrière pour pouvoir avoir assez d'années pour cotiser à leur retraite. Donc le clivage existe dans le sens où on a connu deux marchés du travail différents, mais aujourd'hui, les plus vieilles générations sont elles aussi touchées par ce nouveau marché. Donc oui et non pour un clivage. Par contre, il existe bien différentes jeunesses dans chaque génération, parce que comme j'ai pu vous le dire, chaque personne est unique et chaque personne dans la situation qui pourrait être identique ne réagira pas forcément de la même manière. Et chaque personne a un bagage et une identité qui est bien différente et qui ne permet pas de catégoriser une génération entière sur un modèle précis.
Bien, merci pour cette interview.
Moi, je vous remercie aussi pour ces questions pleines de sens et pour votre interview et votre engagement sur des questions d'avenir telles que les générations face au travail.
Et moi, je suis Léonie de la Garantie Jeune. Je vous remercie aussi pour cet échange qui m'a apporté plein d'éclaircies sur le sujet et je vous remercie beaucoup. Merci.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur JTFM et vous venez d'écouter l'interview de Romy Hald qui représentait la nouvelle génération. Et maintenant, vous allez écouter l'interview de Cathy qui travaille à la ressourcerie de Nantes et qui représentera l'ancienne génération, réalisée par mes collègues Cédric, Léonie, Marie et bien évidemment moi-même. A tout de suite sur JTFM.
Bonjour, Cédric de la Garantie Jeune avec JTFM. Aujourd'hui, nous sommes à la ressourcerie de Lille pour une interview avec Madame Cathy Kigan face aux générations du travail. Bonjour Madame Cathy Kigan.
Bonjour Cédric.
Déjà, c'est quoi la ressourcerie ?
Alors, la ressourcerie de Lille, c'est une association qui œuvre donc sur la réduction de déchets en collectant donc du mobilier et tout ce qu'on peut trouver dans une maison pour leur donner une seconde vie.
D'accord, merci. Et quel est le poste que vous occupez à la ressourcerie ?
Alors moi, l'intitulé de mon poste, c'est chargé de collecte. Ce qui engendre, en fait, nous on collecte en déchetterie, on a 5 camions qui partent en déchetterie. On collecte aussi auprès des particuliers qui veulent se défaire de leur mobilier, qui est encore en bon état à laquelle on peut donner une seconde vie. Et on collecte aussi du mobilier professionnel auprès des entreprises.
D'accord. Quelle est votre vision du travail aujourd'hui et par rapport à 20 ans ?
Il y en a moins, c'est plus difficile. Il y en a moins. Non, je pense qu'il n'y a pas moins de travail. Ça, je pense que je dois... Mais je vois la difficulté. Alors moi, j'ai une fille qui a 26, j'ai une fille qui a 28 ans. Je vois très bien que le milieu de travail n'est pas aussi aisé que ça a pu être pour moi dans les années 80, où en fait, on trouvait du travail en claquant du doigt. Je pense que c'est plus difficile. Alors après, moi, mon positionnement en tout cas, c'est de se dire, bon, ben, essayons de trouver un fil qui nous plaît, qui nous parle et s'y accrocher.
D'accord. Le marché du travail a-t-il évolué aujourd'hui?
Alors, non, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, effectivement, à la date d'aujourd'hui, on peut très bien voir qu'on est plutôt entre 6 mois et 1 an pour trouver un travail. Alors qu'il y a 20 ans, on était presque à un claquement de doigts. Hein. Dans les années 80, 90, il était très facile de trouver un emploi dans quelques domaines que ça soit.
D'accord. Et est-ce que les jeunes ont-ils besoin d'adopter une aptitude différente pour se positionner sur le marché du travail actuel?
Alors, je ne peux pas parler pour les jeunes en général. Je peux parler pour mes jeunes que je vois qui sont mes enfants, qui je suis très proche, qui sont à peu près dans vos âges. Je pense qu'il y a une attitude de présence au travail. Je pense qu'il ne faut pas oublier. J'ai un peu peut-être des valeurs d'anciens. Oui, c'est être impliqué dans son travail, avoir envie de faire le mieux possible. Même si c'est un travail de 16 ans, moi j'ai une fille qui travaille en restauration, c'est-à-dire que tout travail a le mérite d'être bien fait.
D'accord. Les jeunes sont-ils motivés aujourd'hui pour trouver du travail?
Je pense qu'ils sont motivés. Je pense qu'il y a une approche qui est un peu différente dans la recherche de travail. Il y a 2-3 années en arrière, il a fallu vraiment que j'accompagne et que je pousse mes filles à faire de la porte-à-porte, tout simplement, de s'y mettre, d'aller dans la gueule du loup. Ce n'est pas agréable, mais... Après, à la date d'aujourd'hui, maintenant, on est plutôt sur des recherches de travail virtuelles, hein, sur Internet, sur des espaces. Alors, c'est difficile de dire s'il y a une vraie différence. Je pense que peut-être certains vieux sont pénalisés par justement le numérique pour la recherche de travail, par exemple, alors que les jeunes sont moins pénalisés par ça.
Les plus anciens... Avec-ils plus de facilité à s'intégrer sur le marché du travail?
Je pense que c'est une question de statistique, c'est-à-dire que je pense que le travail était plus accessible, il y avait plus de travail, entre guillemets, c'était peut-être plus facile, on était dans des vieilles valeurs. En tout cas, le marché de travail était plus abordable, je pense.
À votre avis, existe-t-il un réel clivage entre les nouvelles générations et les plus anciennes?
Alors, peut-être. Je pense qu'une des difficultés, alors je vais faire ma britannique, hein, mais une des difficultés, ce que je vois si je compare les deux marchés de travail, c'est que le marché de travail britannique va pas forcément demander une expérience ni une formation pour démarrer quelque chose. C'est vrai que sur le marché de travail en France, il est difficile, je pense, pour des jeunes de se dire « Ah ben, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de formation, mais je suis prêt à apprendre et je suis prêt à essayer. » Et je pense qu'on est dans un climat en France où on a besoin de formation, on a besoin d'avoir de l'expérience avant que les portes s'ouvrent vraiment. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Comment se présenter à un poste en disant « je n'ai pas d'expérience ». Si personne vous en donne, je ne vois pas comment vous pouvez en avoir.
Alors là, nous arrivons à la fin de notre interview avec Madame Cathy Kigan. Donc je remercie de nous avoir reçus et de nous avoir informés de tout ça. Ce que je retiens, c'est que j'ai l'importance de ne pas généraliser et de prendre en compte les évolutions sociétal pour expliquer le décalage entre les générations. Donc, Madame Cathy, Nous vous disons, toute l'équipe de la garantie du jeune et du JetFM, vous disons merci.
Merci à vous. Au revoir.
Donc, nous avons fait le tour de la première partie sur le rapport au travail selon la génération, réalisé par Marie, Cédric, Aurélie et bien sûr moi-même. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Alpha Blondy, puis on va enchaîner sur la deuxième partie qui sera donc la découverte des métiers. Ouvrez bien vos oreilles et détendez-vous.
Bonjour, on est de retour au plateau du DTFM 91.2. C'était Alpha Blondy avec son titre « Travailler c'est trop dur » qu'on venait juste d'écouter. On a choisi cette musique, moi, Anassi, Farsidine et Arthur, parce que travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau, demander la charité c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Pour nous, chercher du travail c'est trop dur et c'était notre projet de passer aussi ce message. Heureusement, il y a des domaines où c'est moins dur, par exemple la logistique. Et on va faire écouter Benjamin Ledoux qui travaille à Decathlon dans le domaine du logistique qui est préparatoire de commandes. Soyez attentifs et écoutez Benjamin Ledoux. Merci.
Bonjour, monsieur Benjamin.
Bonjour.
Tout d'abord, pourrais-tu nous expliquer où nous sommes actuellement?
Donc ici, nous sommes à Decathlon, un des plus grands entrepôts de la région. Donc là, on prépare des commandes pour tous les entrepôts de Loire-Atlantique, Vendée un peu et dans la région. Quoi. On est dans la zone industrielle de Saint-Cloud-sur-Loire. On est à la Belle Étoile.
C'est un espace de travail immense. Tu arrives à t'y retrouver?
Au début, c'est dur de s'y retrouver au début. C'est vrai que c'est énorme. C'est un grand entrepôt, tu as plusieurs cellules. Une cellule, c'est un grand emplacement. Puis à force, ça fait 6 mois que je travaille, donc à force, on s'y retrouve.
Quel est ton rôle, quel est ton métier ici?
Alors ici, je suis préparateur de commandes. Donc je prépare des commandes pour des magasins. Donc ça s'appelle du picking, prélèvement à l'article. Alors le prélèvement à l'article, c'est on scanne, je suis avec mon petit chariot. Donc au début, on commence comme ça. On a une petite tablette pour nous dire les articles qu'il faut prendre. Une adresse, le code article, le contenant et tout ça. Il y a une plaque RFID donc, qui nous sert à biper des petites puces pour montrer que l'article est bien dans le box, dans le bac. Donc après, à force, on fait toute la rafale. Donc une rafale, c'est une commande. On fait toute la commande et puis après, on envoie ça au buffer. Donc le buffer, c'est ce qui sert à trier les bacs et qui après, nous les on les prend et on les emmène au quai pour les charger dans le camion.
Donc tu es en alternance, en entreprise et en autre formation?
Oui, je suis en formation avec l'Aftral. Je suis en alternance. Donc la première fois que j'étais en alternance, je passais mon KSS 1. Je passe mes KSS, c'est une chance. Et puis je viens ici pour travailler. Et puis ma formation se passe plutôt bien. Donc,
c'est quoi le rythme?
Le rythme, alors là, c'est franchement... Le rythme, la dernière fois, j'étais resté 4 mois en entreprise. Après, je suis retourné 2 semaines. Et après, là, ça fait 3 semaines que je suis... Ça va faire un mois que je suis en entreprise et là, j'y retourne la semaine prochaine. Donc, en fait, on ne sait pas.
Si tu devrais nous expliquer une journée type?
Une journée type, c'est du prélèvement à l'article, c'est préparation de commande. On prend notre chariot. Par exemple, je suis dans l'équipe Yellow. Donc l'équipe Yellow s'occupe du secteur cycle, donc tout ce qui est vélo, pièces de vélo et tout ça, les casques et rollers, et randonnée montagne. Donc ça veut dire on prend tout ce qui est chaussures de randonnée, polaire, et du coup on se met dans un soit dans cycle, soit en montagne, et du coup on fait nos rafales pendant toute la journée, on essaye de passer le plus de rafales et se mettre à jour. Donc, par exemple, on a dans la journée, on doit avoir 5400 articles et on doit les faire. On doit faire toutes les commandes.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier?
Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est charger et décharger les camions. Déjà, et de une, parce qu'on a la petite machine et c'est quelque chose d'assez... On a assez une pression et moi, j'aime bien la pression. Faut être rapide. Parce qu'on n'a qu'une heure pour charger et décharger un camion. Après, ça dépend des fois les articles, les bacs ou les trucs qu'il y a à charger dans le camion. Mais normalement, ça le fait en une heure. Mais c'est ce que j'aime le plus dans mon métier.
Et qu'est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier?
C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça un petit peu désagréable, c'est le picking. Parce que c'est long. Des fois, il y a des commandes qui sont un petit peu énervantes. C'est petit. Des fois, c'est 30 articles pour 15 adresses et c'est petit. Nous, on aime quand c'est du, par exemple, 300 articles pour du 100 et quelques articles, pour 100 et quelques adresses. C'est vrai que le picking, c'est assez embêtant.
Est-ce que tu sais si tu vas rester travailler ici après ta formation?
Non, je ne sais pas du tout. Decathlon, au début, nous ont dit qu'ils ne cherchaient pas des CDI, ils cherchaient juste à former des gens, donc à former en préparateur commande. Après, si on travaille bien, je crois qu'il y en a un qui a été retenu sur les 4 ans qu'ils ont fait ça. Il y en a un qui a été retenu en CDI. Après, je ne sais pas. Après, c'est à voir ce qu'ils me proposent aussi.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut travailler dans la logistique?
De ne pas lâcher. De chercher dans les entrepôts, parce qu'il y en a beaucoup, d'aller surtout dans les zones industrielles, parce que les zones industrielles, c'est où il y a le plus de logistique. Aller chercher aussi, par exemple, les entrepôts de Leclerc, les entrepôts de Super U. Essayer d'aller chercher ça, parce qu'ils essayent de trouver souvent des gens en intérim ou en CDD, il ne faut pas lâcher, il faut faire des formations surtout, chercher les KCS 1-3-5, c'est ce qui t'ouvre beaucoup de portes. Parce que quand on a les KCS 1-3-5, on trouve ça partout, parce que c'est parce qu'ils cherchent vraiment des gens avec le KCS, quand on est en logistique.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Oui, bonjour, vous êtes toujours sur DTFM 91.2. Nous venons juste d'écouter Benjamin Ledoux qui nous a fait part de son parcours et de sa formation et de tout ce qu'il fait durant ses heures de travail, la manipulation des outils de manutention qui sont nécessaires de nos jours pour intégrer le domaine de la logistique. La formation CACERS donne accès au certificat d'aptitude à la conduite en sécurité qui permet d'obtenir différents postes dans le domaine de la logistique. Et pour cela, on va tout de suite continuer avec l'AFTRAL, le plus grand pôle de formation initiale transport en logistique en France. Et où nous avons justement interviewé Madame Bordet qui va nous parler un peu de l'AFTRAL et de l'optation des CACES. Allez, c'est parti.
Bonjour, on est ici à la Place à l'Emploi à Atlantis aujourd'hui pour s'intéresser au métier de la logistique et plus particulièrement aux CACES. Le saviez-vous, d'ici 2022, 540 000 postes seront créés en France. On a choisi d'aller à l'AFTRAL pour avoir quelques réponses à nos questions. Pourquoi l'AFTRAL ? Parce que c'est une valeur sûre qui forme 200 000 postes par an.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous présentez ?
Alors, moi, je suis Marie-Laure Bordin, donc de l'AFTRAL. Je suis conseillère en recrutement pour l'AFTRAL, donc l'organisme de formation en transport logistique.
Quels sont les moyens de passer les CACES ?
Bien sûr, la possibilité de passer vos CACES, ça se fait en 5 jours. Mais également, vous pouvez vous former sur des formations plus longues, qualifiantes, en contrat de professionnalisation ou en formation via le conseil régional ou via Pôle emploi en partenariat avec des entreprises. C'est un secteur qui a en fort besoin de main d'œuvre, des métiers en tension. Vous êtes sûr d'avoir du travail à l'issue de nos formations puisque les entreprises sont vraiment en forte demande. Nous avons de plus en plus besoin de préparateurs de commandes, des métiers de la logistique évoluent, nos modes de consommation évoluent. Hein, on commande aussi maintenant beaucoup via Internet. Donc en amont, quand vous recevez le colis chez vous, en amont de cette action, il y a toute une chaîne logistique qui va, donc c'est des grandes plateformes logistiques qui ont besoin de préparateurs de commandes, d'agents magasiniers, de techniciens en logistique, d'opérateurs logistiques, responsables d'exploitation. C'est vraiment, vous pouvez monter en compétences au fur et à mesure de votre progression professionnelle.
Et sur les CACES, quelles machines qu'on peut utiliser ?
Alors, ce sont des chariots élévateurs que vous utilisez quand vous êtes en entrepôt. J'insiste sur le fait que les formations ne se résument pas uniquement à la conduite de ces chariots. La conduite de chariots, ça fait partie du job, entre guillemets, du métier. Mais vous faites vraiment beaucoup plus de choses. Ce sont des métiers très variés. Vous avez une polyvalence qui est demandée. Vous faites de la réception de marchandises, du contrôle, du rangement, de la préparation, de l'expédition. Vous préparez pour l'expédition. Et donc, c'est vraiment très complet. Ça bouge, c'est dynamique. Bien sûr, vous conduisez des chariots élévateurs, mais ce n'est pas que ça.
Vous êtes toujours sur JTFM au 91.2. Après vous avoir présenté le monde de la logistique au travers de Madame Bordin, nous allons maintenant découvrir un autre univers, celui du tri et du recyclage de nos vêtements par l'entreprise Le Relais, via les fameux containers visibles, le plus souvent à proximité des grands centres commerciaux. Pour cela, nous avons interviewé Amélie, chef des équipes et du tri au centre Relais de Couëron. Pendant cette interview, elle présentera son travail ainsi que le fonctionnement de la structure. Ce lieu spécial où sont recrutés uniquement des personnes en contrat d'insertion. Il s'agit de contrats destinés au public ayant du mal à intégrer le monde du travail. Cette interview a été réalisée par Sorel, moi et Arthur. On espère qu'il vous plaira. Bonne écoute.
Bonjour Madame Moreau, vous pouvez nous dire où nous sommes ?
Bonjour, alors là du coup vous êtes au centre de tri du Relais Atlantique
à Couëron, donc c'est dans la zone artisanale des Hauts-de-Couëron.
À quoi consiste votre métier en fait ?
Donc en tant que responsable du tri, je dois m'occuper de tout ce qui est planning, la gestion d'équipe, le recrutement, encadrer un peu les équipes. On fait des bilans aussi avec les salariés, voilà, organisation du travail, du tri, en fonction des, voilà, des clients, du cahier des charges des clients.
Ok, bon, on va passer aux questions. Alors, qu'est-ce qu'une SCOP ?
Alors, une SCOP, c'est une société coopérative et participative. D'accord. En fait, ici, les salariés, au bout de 5 ans d'entreprise, ils peuvent devenir sociétaires de la SCOP. Et ils vont ensuite élire un conseil d'administration. Ce conseil d'administration va prendre les décisions de l'entreprise. Voilà, organisation du travail, du tri.
Une coopérative est-elle ouverte à tous ?
Alors ici, c'est ouvert à tous. Donc on est une coopérative, mais on est ici une entreprise d'insertion. On est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous êtes éligible au contrat d'insertion. Après, on ne vous demande pas de diplôme particulier, mais il faut être éligible au contrat d'insertion.
Comment et pourquoi recycler les vêtements ? Comment donner aussi ?
Pour donner les vêtements, c'est tout simple. Il faut les donner dans les bornes du relais que vous trouvez un peu partout sur le département.
Comment et pourquoi recycler les vêtements ?
Pourquoi les recycler ? En tout cas, les recycler au relais parce qu'on va essayer de donner une seconde vie aux vêtements, limiter les déchets qui pourraient générer tous ces vêtements. On va aussi créer de l'emploi en donnant au relais. Nous, on est entreprise d'insertion qui essaye de créer de l'emploi. Voilà, on est en tout sur toute la France. Le relais, c'est plus de 2000 salariés. Ici, nous, on est à 140. Donc voilà, on crée de l'emploi, des emplois en insertion. On a aussi des CDI qui sont ici depuis quelques années. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et puis aussi le fait qu'on va vendre à pas trop cher. Donc des personnes qui seraient avec des revenus modestes pourraient aller acheter dans nos boutiques dingue-fringue pour pas trop cher.
Où partent et que deviennent les dons ?
Donc en fait, les dons, ils vont être recyclés ici sur le centre de tri. Il va y avoir différentes filières. On va avoir le recyclage. Donc là, c'est tout ce qui est laine, coton, tricoté. Tout ce qui est matière première comme le coton en jean ou velours, ça va être recyclé, soit chez un effilocheur qui est en France, soit vers l'Inde. Ensuite, il y a les chiffons d'essuyage. Donc on va, nous, ici, sur le centre de tri, faire de la coupe, des coupes de chiffons qui vont être vendues localement à des petites entreprises. On a tout ce qui est envoyé comme réemploi dans les relais en Afrique ou chez des clients en Afrique aussi. Et la dernière chose, la plus importante, c'est nos boutiques où on va vendre les vêtements à moindre coût. Ça représente 5% de tout ce qu'on reçoit.
Pourquoi les vêtements français sont exportés en Afrique et non pas redistribués aux personnes dans le besoin en France ?
Alors, c'est à la fois envoyé en Afrique, dans nos relais, chez des clients, mais c'est aussi redistribué, enfin, vendu dans nos boutiques aux personnes, comme vous dites, modestes en France. Après, il y a toujours aussi les associations comme le Secours Populaire, Secours Catholique, qui aussi vont distribuer des vêtements dans les associations. Donc là, effectivement, c'est peut-être plus donné que vendu, contrairement à nos boutiques.
Comment sont amenés les produits recyclés ?
Alors, du coup, les produits sont envoyés par camion, d'accord, par transporteur, ou alors majoritairement par des conteneurs maritimes. Vers l'Afrique et vers l'Asie, c'est les conteneurs maritimes.
Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Jet FM 91.2 et nous allons dès maintenant passer à Rémi, employé et collègue de Amélie au relais de Couëron. Amélie est la responsable du tri et des équipes. Elle est donc le chef de Rémi, trieur de chaussures, que nous allons écouter, interviewé par notre camarade de la garantie jeune, Sorel. Rémi est l'employé avec le plus ancienneté au relais de Couëron. Bonne écoute.
Bonjour.
Je m'appelle Sorel et voilà, mon équipe est Corentin et on est là.
Bonjour, pour Corentin.
Dans le cadre d'un enregistrement radio et on voudrait vous poser quelques questions.
Il n'y a pas de souci.
Depuis combien de temps vous travaillez au relais ?
Alors ça fait presque 21 ans.
D'accord.
Je suis arrivé le 2 février 1998 au relais.
Ok, d'accord. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ?
Bien sûr. Alors, moi, le poste de travail, c'est le poste de chaussures.
D'accord.
Alors, on trie minimum 800 kg par jour.
D'accord.
On a une vingtaine de codes différents des produits. Et ce qu'on essaye de sortir aussi le plus possible, c'est le boutique, ce qui nous permet de valoriser notre poste le plus facilement quand même, d'éviter aussi beaucoup les déchets. Donc là, en ce moment, par exemple, on est dans une période au niveau des déchets où on en a un peu plus parce qu'il y a la pluie.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont trempées, ça on peut pas les mettre en exportation parce que ça peut pourrir le produit. Donc on fait vraiment très attention à ça. Et donc sur les vingtaines de produits qu'on a différemment, il y a les sacs à main, il y a des chaussures, il y a des bottes, il y a des pattes plastiques, il y a des chaussures plastiques, vous avez les pantoufles, on a aussi des bottes fourrées. Et on a un produit qu'on appelle le CHB, c'est les chaussures qui sont refaites. Donc ça veut dire que l'entreprise qui nous les rachète va aussi créer des emplois pour pouvoir aussi nettoyer ou réparer la chaussure. On a un autre produit qu'on appelle le mêlé, où là c'est directement destiné sur des marchés de vente. Et vous voyez, on met des piles sur notre table là, c'est parce que pour le mêlé, on a besoin de mettre 10 chaussures hommes. On met 6 paires de chaussures de ville, on met 3 tennis et on met les bottines hommes aussi. Et nous, dans nos critères, ce qui nous permet de différencier l'homme, c'est minimum 39. C'est par rapport au client qui nous dit, voilà, nous, pour l'homme, c'est 39, pas en dessous. En dessous, on peut le mettre quand même, mais c'est pas de l'homme.
Du coup, vous avez dû avoir du changement depuis ou pas?
Pour avoir du changement, il y a eu beaucoup de changements. Ce que vous voyez, par exemple, ici, vous voyez, on a 2 postes de chaussures.
D'accord.
Avant, il n'y en avait qu'un seul. Okay. Ce que vous voyez autour de mon poste, vous avez des cases, des fourreaux pour mettre le sac. Avant, j'en avais que 4. Quand on a commencé les chaussures, on n'avait que 4 portants pour 4 sacs avec toujours 20 codes à faire. Donc ça veut dire que les autres sacs étaient à terre. Donc très dangereux. Donc là, on a sécurisé un maximum sur tous les postes. Donc vous voyez, il n'y a pas pratiquement aucun sac à terre. Et les tables, on les a, celle-ci, on l'a agrandie par rapport aux autres, ce qui nous permet d'avoir plus de place pour pouvoir travailler. C'est vraiment une souplesse. On pourrait aussi avoir une modification de hauteur de la table. Tout dépend avec si par exemple on travaille avec une grande personne et que c'est trop bas pour lui, on peut essayer aussi d'avoir une table où on peut monter le niveau. C'est ce qu'on a fait sur d'autres postes au niveau de l'export, ce qui est très important. Donc, au niveau du stockage, on a des palettiers parce qu'avant on allait chercher au fur et à mesure les sacs sur la palette. Donc il y a vraiment des grosses améliorations. Maintenant, on coud les sacs. Avant, on avait une sorte de tige en fer et on cerclait avec un appareillage. Et donc là, maintenant, on a une machine à coudre qui est suspendue avec un câble. Donc on n'a aucun effort à faire. C'est vraiment une souplesse. Et ça, c'est pareil. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas tout ça. On a aussi un bâtiment qui est adapté. Parce que moi, quand j'ai commencé, on n'était pas ici. Là, ce bâtiment-là, on est là depuis 5 ans.
Ouais.
Ça va faire 5 ans, donc 2013. Et avant, on était dans un bâtiment où l'éclairage n'était pas aussi important, l'isolation du bâtiment, c'était pas la même chose. Et surtout, c'était l'agencement du bâtiment qui n'était pas la même. C'est-à-dire qu'on se mettait où on pouvait. Alors que là, on s'est adapté, on a adapté le bâtiment à notre manière de travailler. Donc ça, c'est une très très grosse évolution. Voilà.
Bonjour, de retour sur le plateau de Jet FM. Vous êtes toujours dans l'émission spéciale radio GJ Garantie Jeune. Après le reportage à la découverte du relais atlantique et de son univers à Couiron, on change complètement d'univers et on se dirige vers des bureaux pour une interview sur les métiers de la fonction publique par deux charmantes, Chippy, Mayouen et Elsie. À vous, merci.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Jacques et je travaille à la mairie de Saint-Herblain. Je travaille au pôle commande publique comme instructeur de marché public.
Alors bonjour, je m'appelle Patricia, je suis responsable du pôle budget comptabilité depuis 2 ans et demi. J'ai intégré la fonction publique dans le service finance depuis 2001, où j'ai occupé différents postes au sein de la collectivité.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, moi, mon métier, comme je vous le disais, c'est instructeur de marché public. C'est un mot un petit peu compliqué. Il s'agit en fait de passer les contrats par lesquels la mairie de Paris achète au secteur privé des biens, des prestations ou des travaux.
Alors moi, mon poste, je suis donc responsable du pôle budget comptabilité. Donc j'encadre 4 personnes. Donc 3 personnes qui sont sur le pôle comptabilité, donc qui s'occupent de payer en fait toutes les factures qui arrivent à la mairie. Bon, je résume. Et une autre personne qui est chef de projet dématérialisation.
Quels sont les autres métiers administratifs présents dans votre service ?
Dans l'administration, il y a énormément de métiers différents, puisque les services publics touchent à plein de domaines différents, et on a besoin de gens dans tous ces domaines-là. Ça serait difficile de les énumérer, parce que d'une part, je ne les connais pas tous, et d'autre part, ils sont très nombreux, mais ça touche aussi à l'action sociale, aux travaux, aux espaces verts, à l'environnement, à la police. Enfin, il y a plein de métiers différents. Je vais en oublier, donc je vais m'arrêter là.
Oui, ce que je peux rajouter, excuse-moi Jacques, il y a des travaux qui peuvent être considérés, je dirais, plus administratifs. Mmh. On est dans des bureaux, mais bon an, mal an. Et il y a des métiers, je dirais, plus techniques. Il y a des gens de terrain, comme des jardiniers, des gens, des électriciens, des menuisiers. Saint-Herblain, c'est une ville assez conséquente. Donc on a quand même une palette d'équipements sportifs, scolaires, qu'il faut notamment maintenir. Donc ça nécessite aussi des métiers, je dirais, manuels, techniques, à l'intérieur, à l'extérieur, administratifs. Donc il y a vraiment une palette de métiers. Voilà, selon les domaines d'activité, on est 14 directions avec des thématiques très diverses.
Et que dans toutes ces branches, plus ou moins techniques, il y a aussi des métiers administratifs qui sont en fait, parce que nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est un service de ressources fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on est un service qui aide les autres services. Mais vous pouvez travailler, avoir un poste administratif plus
ciblé
sur un, ouais, ciblé sur un service opérationnel en fait. Et là, on s'oriente vers une palette vraiment large.
Par exemple. Nous, c'est vrai, comme disait Jacques, on est dans un service fonctionnel, donc on est en appui des services. On a des directions qu'on appelle des directions opérationnelles de terrain. Donc, par exemple, je vais prendre au niveau d'un service qui va s'occuper de l'état civil. Donc, les personnes vont recevoir du public et vont faire des actes administratifs en lien avec les naissances, les décès, ça peut être aussi les mariages. Voilà, donc c'est des métiers complètement différents d'une autre. Nous, on est plutôt axé, évidemment, comme vous l'avez compris, finance et marché public. Mais je dirais, dans chaque direction, un agent administratif lambda ne va pas du tout faire le même métier qu'à notre niveau.
Quel est votre parcours scolaire et professionnel ?
Mon parcours scolaire et professionnel, moi j'ai fait un bac S et en fait je voulais pas faire de maths et de physique. Et du coup après je suis allé faire du droit et j'ai passé une licence de droit, j'avais redoublé ma deuxième année d'ailleurs. Et ensuite j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Ce qui peut vous intéresser également, vu que quand on travaille dans une administration, on peut tout à fait demander à aller travailler dans une autre. Vous gardez votre ancienneté, etc.
Alors, pour ma part, moi, j'ai eu un bac général, S, B à l'époque. Et après, j'ai fait une année d'IUT en gestion, qui ne m'a pas forcément plu à l'époque. J'ai fait un petit peu de droit aussi pendant 2 ans. Et j'ai repris des études à l'IUT de Nantes en cours du soir. Donc, j'ai passé un DUT en GEA, gestion, entreprise, administration. Et j'ai eu l'opportunité en 2001 de pouvoir rentrer à la mairie de Saint-Herblain en tant que contractuelle pendant une année et demie. Et donc je suis rentrée sans concours à la mairie de Saint-Herblain et j'ai gravi au fur et à mesure les échelons. Donc j'ai passé plusieurs concours, comme vous me disiez mon collègue. Par contre, en termes de carrière, ce qu'on peut préciser, comme je vous disais à l'instant, on a possibilité... Alors on est titulaire de notre grade. Par contre, après, on n'est pas titulaire de notre poste. Et on a la chance de pouvoir bénéficier de formations. Donc, on a le Centre national de la fonction publique territoriale qui prépare les agents territoriaux au concours administratif.
Quelles ont été vos motivations pour devenir fonctionnaire territorial ?
Le fait de travailler pour l'intérêt général, ça m'a motivé. Ça continue à me motiver, bien sûr, mais à l'époque, je ne savais pas très bien ce que c'était.
Moi, dans le métier que j'occupe actuellement, c'est effectivement la diversité des missions. Les journées ne se ressemblent jamais.
Voilà, vous avez pu entendre l'interview que j'ai réalisée avec Mayoen de Patricia et Jacques pour les métiers administratifs à la mairie de Saint-Herblain qui nous ont permis de découvrir plus en profondeur le domaine de l'administration publique.
Mayoen et Elsie ont décidé de réaliser cette interview car c'est le secteur qui les intéresse le plus et qu'elles aimeraient l'intégrer par la suite.
L'émission nous a permis par ailleurs de découvrir plein d'autres métiers.
Le groupe va vous en dire un peu plus sur son propre ressenti. On leur a demandé un mot pour décrire ce qu'ils ont pensé de cette expérience. Alors Elsie.
Enrichissante.
Marie.
Fun.
Sorel.
Drôle.
Cédric.
Magnifique.
À vous, Léonie.
Je dirais aussi enrichissant.
Farcidine.
Superbe.
Anassi.
Intéressant.
Corentin.
Intéressant.
Arthur.
Bonne ambiance.
Aurélie.
Découverte.
On remercie Gustave et Alexandra et toute l'équipe de Jet FM.
Au revoir.
Kwaher, marabanying.
Au revoir tout le monde, merci de votre écoute.
Goodbye.
Au revoir les petits filous.
Salut.
Au revoir.
Au revoir chers auditeurs.
Salut les amis.
Au revoir.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.